éthique en communication. Aujourd'hui, nous accueillons Maxime Ouellette, chercheur postdoctoral à la chaire Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie, qui va nous parler donc de la critique de la communication comme critique du capitalisme. Je peux te céder la parole tout de suite.
Bien, merci. Je voudrais remercier Eric, plus spécifiquement, de m'avoir invité à présenter mes recherches. J'ai intitulé ma communication « Les apories du paradigme communicationnel dans les théories critiques ». Ça aurait peut-être été préférable de dire « théorie critique » avec un grand T, parce que je vais traiter davantage l'école de Francfort, mais je veux aussi aller un peu plus large, donc je veux un peu dialoguer aussi avec d'autres perspectives qui sont considérées comme critiques en théorie sociale générale, puis spécifiquement en communication. Donc, le but de ma présentation, dans un premier temps, c'est un peu de montrer qui est nécessaire pour la théorie critique, disons avec un grand T ou un petit T, je dirais plus un grand T, de retourner à ses sources, ce qui nécessite, selon moi, de retourner, de procéder à une relecture des écrits de Marx, hein, au-delà de la lecture, finalement, qui est proposée par le marxisme traditionnel. Donc, l'idée, c'est un peu de montrer qu'on retrouve chez Marx une sociologie critique, que je peux appeler une sociologie critique des médiations qui sont spécifiques au capitalisme. Selon moi, c'est justement sur cette base donc, d'une sociologie des médiations que doit se fonder une théorie critique en communication. Dans un deuxième temps, je vais essayer d'interroger certaines présuppositions d'ordre plus théorique, que ce soit ontologique ou épistémologique, qui se trouvent au fondement de la théorie critique contemporaine. Plus précisément, je veux réfléchir sur certaines dérives qui sont liées, selon moi, à l'adoption du paradigme communicationnel au sein de la théorie critique. Puis là, je pense principalement au tournant qui a été initié par Habermas. Je voudrais montrer un peu... En général, qu'il y a une espèce d'ontologie de la communication qui se trouve au fondement même, finalement, du capitalisme actuel, qu'on peut appeler le capitalisme avancé, donc qui se caractérise par différentes mutations. On peut parler de financiarisation, d'informatisation, de globalisation, etc. Finalement, je vais essayer d'analyser plus spécifiquement dans une perspective de communication, donc le rôle d'éthique, les rôles de l'Internet, dans la production de nouvelles formes de subjectivité dans le contexte des mutations du capitalisme avancé. Donc, le premier point, je vais aborder la critique du capitalisme comme une critique des médiations sociales. Donc, la théorie, quand on parle de théorie critique, essentiellement de l'école de Francfort, dans sa dernière nouvelle génération, a abandonné, en gros, la critique du capitalisme telle qu'elle avait été développée par Marx initialement, essentiellement parce que, selon moi, elle est demeurée prisonnière des catégories de l'économie politique classique. Je vais essayer de montrer un peu la distinction. Donc, hein, le marxisme traditionnel analyse, on le sait, un peu le capitalisme uniquement, principalement, du moins, d'un point de vue économique, donc en termes de mode de production, puis adopte de manière positive la théorie de la valeur travail, qui est finalement celle de Ricardo et non celle de Marx. Puis ça, c'est une distinction qui est importante à montrer, parce que cette théorie critique-là, qu'on pourrait dire ricardienne, essaie principalement de prouver l'existence d'une exploitation de classe. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une forme de domination qui est beaucoup plus spécifique puis fondamentale au sein du capitalisme. Donc, le marxisme, on peut dire, s'est érigé en une économie politique alternative qui a fait fi de la démarche principalement marxienne qui consiste plutôt en une critique de l'économie politique. C'est une distinction qui est importante à faire. Donc, une critique de l'économie politique... Sa finalité, finalement, c'est de chercher à transcender les formes de médiation sociale qui sont historiquement spécifiques au capitalisme. Donc, si on revient au fondement de la critique marxienne, on peut voir qu'elle consiste en une réflexion à la fois, on pourrait dire, philosophique puis sociologique, qui cherche à comprendre les conditions sociales, culturelles puis historiques qui rendent possible le capitalisme. Donc, En ce sens-là, c'est pour ça que je dis, Marx n'expose pas une théorie positive de la valeur travail au sens d'une théorie économique, mais plutôt fait une critique de la valeur. Hein. Il fait une critique du fait que les produits du travail possèdent une valeur. Donc, l'analyse de Marx, en ce sens-là, c'est une critique des catégories centrales de l'économie politique, c'est-à-dire hein, catégories centrales que sont la marchandise, le travail, la valeur, le capital, qui, selon lui, ne sont pas hein, des catégories naturelles ou économiques, mais bien plutôt en des catégories sociales, puis des catégories culturelles également, hein, qui appartiennent qu'à une époque sociale, historique, bien déterminée, bien précise. Donc, hein, Marx analyse finalement la nature de la médiation sociale qui est spécifique au capitalisme. Donc, pour lui, ce qui caractérise une société, hein, c'est le caractère spécifique de ses rapports sociaux. Donc, l'essence de l'homme, hein, Marx va dire, l'essence de l'homme, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Donc, la spécificité du capitalisme consiste justement dans le fait que les rapports sociaux sont médiatisés par le travail, puis la marchandise. Donc, hein, en tant que catégorie de la pratique, la marchandise, le travail, puis la valeur sont des médiations sociales, c'est-à-dire qu'ils expriment puis représentent des rapports sociaux spécifiques. Donc, ces catégories-là ne sont pas fausses en tant que telles, hein. Elles ne sont pas tant fausses qu'elles sont fétichisées, c'est-à-dire hein, qu'elles sont la forme nécessaire que prennent des rapports d'interdépendance dans une société donnée, dans ce cas-ci, dans le capitalisme. Donc, quand on parle de médiation sociale, il faut comprendre par là des manières de se représenter le social. Donc, le fétichisme, hein, il ne faut pas le voir, hein, la catégorie du fétichisme ne vise pas tant à montrer hein, qu'il y aurait une idéologie qui masquerait des rapports sociaux réels, mais plutôt, elle vise plutôt cette catégorie du fétichisme-là, à saisir comment des rapports sociaux s'expriment à la fois symboliquement puis matériellement. Donc, c'est pourquoi hein, l'analyse de Marx débute par la catégorie de la marchandise, qu'il va décrire comme hein, une chose à la fois sensible et suprasensible. Donc, l'analyse de la marchandise vise justement à spécifier son rôle fondamental en tant que catégorie qui représente une médiation sociale qui est spécifique au capitalisme. Ce qu'il faut comprendre par là, hein, c'est qu'alors que dans les rapports sociaux dans les sociétés pré-capitalistes étaient médiés de manière plus ou moins directe, c'est-à-dire hein, des rapports sociaux qui soient politiques, culturels ou religieux, la modernité capitaliste vient instituer un nouveau rapport d'interdépendance entre les individus, hein, qui possède un caractère davantage abstrait, c'est-à-dire le rapport marchand. Donc, pour Marx, hein, l'échange entre les individus, l'échange marchand, n'est possible qu'à travers un procès d'abstraction. Hein? Ce procès-là est concomitant à l'institution socio-historique de la modernité. Donc, c'est principalement ce procès d'abstraction qui est l'objet de la critique de Marx, hein, dans mesure où il est constitutif, selon lui, d'une forme spécifique de domination qui est propre au capitalisme. Puis, par forme de domination ici, il faut voir qu'il y a une forme de domination qui est beaucoup plus fondamentale que celle qu'on se représente de manière plus personnalisée, que ce soit un rapport de classe, un rapport de race, un rapport de sexe ou des formes de pouvoir qui sont davantage institutionnalisées, que ce soit l'État ou peu importe quelle forme d'institution. C'est un rapport, donc, un rapport, une forme de domination qui est abstraite. Donc, je vais citer justement un passage de Marx où il explique bien ça dans les Gunnerisse, qui sont finalement un peu les ébauches qui ont permis d'écrire le Capital, puis qui sont un peu les clés qui nous permettent de comprendre le Capital comme il faut. Donc, c'est important de le lire, de lire ces textes-là. Il dit, je cite, « Contrairement au rapport de dépendance personnelle, où l'individu est subordonné à un autre, les rapports réifiés de dépendance éveillent l'impression que les individus sont dominés par des abstractions, bien que ces rapports soient, en dernière analyse, eux aussi, des rapports de dépendance bien déterminés et dépouillés de toute illusion. » Dans ce cas, l'abstraction, l'idée, n'est rien d'autre que l'expression théorique des rapports matériels qui dominent. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, pour Marx, hein, c'est que c'est au moyen de l'abstraction du travail, quand on parle d'abstraction du travail, c'est-à-dire hein, qu'on fait abstraction de la spécificité des activités des individus, puis de l'incommensurabilité de chaque individu vivant, donc hein, du fait que c'est impossible de mesurer deux individus, un par rapport à l'autre, en raison de leur singularité. Hein. Donc, il est nécessaire de faire abstraction de ça, donc de les réduire à leur plus petit dénominateur commun, donc le temps de travail. C'est à partir de ça qu'il est possible, hein, de quantifier l'activité humaine, donc hein, d'inscrire un nouveau rapport quantitatif entre les individus. Donc, lorsque, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que lorsque les relations économiques se substituent aux relations sociales des individus vivants qui existaient dans les sociétés précapitalistes, finalement, c'est la vie humaine elle-même qui vient s'aliéner dans l'économie. Donc, hein, on voit par là qu'il y a une transformation des finalités des rapports sociaux dans la mesure où hein, la finalité de la production dans le capitalisme, elle ne vise plus la satisfaction des besoins physiques essentiels à la vie, hein, ce que Marx appelle finalement la richesse réelle, qui est important de distinguer justement la distinction que Marx fait entre richesse puis valeur, hein, donc richesse réelle. Donc, la finalité, ce n'est plus la richesse réelle, c'est plutôt hein, que la production devient une fin en elle-même. Hein, donc, une forme de richesse abstraite qu'il va appeler la valeur. Puis, la valeur, pour lui, elle est constituée uniquement par le temps de travail social abstrait. Donc, Marx va définir le capital comme un grand autre, avec un grand A, un autre qui se mue lui-même. C'est-à-dire hein, une totalité qui existe sous une forme aliénée. Donc, la valeur qui s'auto-valorise, hein, on pourrait faire une analogie avec Hegel pour dire que ça devient le sujet au sens hegelien. Hein, Marx va parler du sujet automate. Ce sujet automate, bien qu'il apparaisse dans sa forme de représentation comme étant séparé des rapports sociaux, est constitué spécifiquement par la médiation des rapports sociaux par le travail abstrait. Donc, pour Marx, hein, si la finalité de la production, c'est la valeur, puis plus spécifiquement la sur-valeur, ça signifie que le but, la finalité de la société, est la médiation sociale elle-même. Hein. Donc, le travail, dans ce sens-là, ça devient une pure tautologie. On travaille uniquement afin de produire davantage de nouveaux travaux. Donc, d'où la perte de sens. Hein. L'activité sociale perd son sens, ce n'est plus une activité signifiante. Donc, dans le capitalisme, on peut dire que les individus sont dominés par leur propre travail. C'est une forme de domination qui est abstraite, qui n'est pas personnalisée. On ne peut pas réduire non plus uniquement un rapport de classe. Hein? Donc, la forme de domination prend la forme d'une totalité abstraite puis aliénée qui vient s'imposer à la société, qui prend la forme, finalement, d'un développement aveugle puis hors du contrôle humain, bien qu'il soit constitué par cette médiation des rapports sociaux au moyen du travail abstrait. Donc, c'est un petit peu mon résumé rapide, très schématique de la perspective de Marx pour essayer justement de dialoguer avec la théorie critique telle qu'elle a été finalement abordée, redéployée par Habermas. Donc, je vais essayer d'analyser dans cette deuxième partie-là le rôle de la communication dans les mutations du capitalisme avancé. Donc, pour ce faire, je pense que c'est nécessaire de revenir un peu à ce qu'Habermas fait de la communication. Hein. Donc, je vais essayer de procéder un peu à une critique de sa théorie sociologique générale qui accorde une grande importance à la communication. Je n'ai pas l'intention ici de présenter de manière finalement exhaustive hein, toute la théorie d'Habermas, mais plutôt de montrer comment l'abandon du cadre d'analyse marxien, donc propre à Marx, qui était aussi celui finalement de l'école de Francfort, hein, va le conduire à l'impossibilité de penser de manière critique, puis finalement dialectique, une voie de sortie de la domination qui est spécifique à notre période socio-historique contemporaine. Donc, pour revenir schématiquement, hein, l'analyse d'Habermas, en gros, vise à reconstruire une sociologie générale qui serait mieux à même de comprendre les mutations du capitalisme avancé, ou on pourrait parler ici de capitalisme post-libéral, que le paradigme marxien qui a finalement conduit l'école de Francfort à une analyse, on le sait, assez pessimiste, qui est finalement plus en mesure d'envisager une voie de sortie à une société qu'Adorno va appeler une société totalement administrée. Donc, la perspective que va adopter Habermas va le conduire à délaisser finalement hein, les catégories centrales de la théorie critique, soit le paradigme sujet-objet, donc toutes les catégories qui sont celles d'aliénation, de fétichisme, de même que les catégories de médiation puis de totalité, au profit d'une théorie qui repose sur l'intersubjectivité. Donc, Habermas va critiquer Marx, va rejeter la théorie de Marx parce que, selon lui, Marx aurait essentialisé le travail. Hein? C'est-à-dire que Marx aurait fait du travail un processus de constitution sociale qui pourrait expliquer de manière transhistorique le fonctionnement de toutes les sociétés. Hein? Ce schéma, c'est vrai hein, que c'est celui en partie du marxisme traditionnel. Mais selon moi, ça ne correspond pas vraiment à l'analyse qu'en fait Marx, qui cherche, comme j'essayais de montrer, hein, à expliquer le caractère spécifique du travail qu'il a qualifié, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, de travail abstrait qui est propre au capitalisme. Donc, Habermas va remplacer un schéma qu'on pourrait dire transhistorique, celui du travail tel que compris par le marxisme, par un autre schéma qu'on pourrait dire qui est tout aussi transhistorique, hein, celui qui vient opposer deux sphères d'interdépendance sociale, deux sphères interdépendantes, mais qui sont montrées comme étant séparées. Hein. Il va analyser la sphère du travail, puis celle de l'interaction, celle de l'agir instrumental, puis celle de l'agir communicationnel. Puis cette distinction-là, finalement, vient obscurcir la spécificité du travail qui est déterminée par la marchandise, comme j'ai essayé de montrer dans la première partie. Donc, Habermas va analyser également le passage hein, d'un capitalisme libéral, donc capitalisme, disons, originaire, hein, qui se caractérisait principalement par la propriété privée des moyens de production, puis la domination du marché comme médiation spécifique des rapports sociaux, un capitalisme qu'on peut appeler post-libéral ou capitalisme avant qui surgit environ au début du 20e siècle, puis qui se consolide avec l'État-providence, on pourrait dire. Hein. Donc, capitaliste qui est dominé par des grandes organisations, que ce soit l'État, puis les grandes corporations. Hein. Donc, ces transformations du capitalisme, pour Habermas, elles viendraient invalider la théorie de la valeur travail qui serait celle de Marx, qu'il faudrait, selon lui, remplacer par une théorie de la valeur savoir et technologie. Hein. Donc, Habermas va traiter de ça dans son bouquin qui s'appelait « La technique et la science comme idéologie », quelque chose du genre. À partir de ça, il va fonder cette critique-là de Marx à partir de certains passages des Gunnerus, où Marx analyse justement le rôle prépondérant de la science puis de la technologie, rendu à un certain stade du capitalisme que Marx analysait comme une partie du machinisme. Donc, je vais citer justement ce passage-là qui a été repris par énormément d'auteurs critiques, passage des Gunnerus, donc qui va comme suit. Marx dit « Cependant, à mesure que se développe la grande industrie, la création de la richesse réelle, essayez de bien, richesse réelle, dépend moins du temps de travail et du quantum de travail employé que de la puissance des agents mis en mouvement au cours du temps de travail. Dans cette mutation, ce n'est ni le travail immédiat effectué par l'homme lui-même, ni son temps de travail, mais l'appropriation de sa propre force productive générale, sa compréhension et sa domination de la nature, bref, on pourrait dire la science, par son existence en tant que corps social, en un mot, le développement de l'individu social qui apparaît comme le grand pilier fondamental de la production de la richesse. Dès que le travail, sous sa forme immédiate, a cessé d'être la source principale de la richesse, le temps de travail cesse et doit cesser d'être sa mesure, et la valeur d'échange cesse donc aussi d'être la mesure de la valeur d'usage. » Habermas va reprendre ce passage-là, puis va gommer finalement la distinction qui est faite explicitement par Marx entre richesse puis valeur. Hein? Richesse matérielle ou richesse réelle et valeur. Donc, ce passage-là des Gunnerus, il a été compris à tort, finalement, dans une perspective très ricardienne. Donc, il est propre à Ricardo. Hein? Donc, une théorie positive de la valeur, comme étant la démonstration d'une transition, d'une théorie de la valeur, valeur travail à celle de la valeur savoir. Donc, on retrouve ça également chez les théoriciens actuels du capitalisme cognitif. On pense à Artenegri, Vercellon, etc., également chez Castells, qui confondent hein, les concepts, finalement, de travail matériel puis de travail abstrait, qui sont deux choses complètement différentes, de même que ceux, les concepts de richesse puis de valeur. Donc, ce que Marx souligne dans ce passage-là, hein, c'est qu'en raison du développement de la science, de la technologie, bref, des forces productives, il est possible d'envisager le dépassement du capitalisme sur ses propres bases. Donc, lorsqu'un certain stade de développement technologique est atteint, le travail cesse effectivement d'être l'unique facteur déterminant la production de la richesse matérielle, c'est-à-dire les biens, les choses. Hein? Ce qui permet justement d'envisager un mode de développement qui serait qualitativement différent du capitalisme. Donc, la possibilité de voir surgir une nouvelle forme de développement qui serait basée sur la production de la richesse matérielle et non sur l'accumulation de la valeur. Il est donc, ça se situe donc à l'intérieur même des entrailles du capitalisme. Par contre, hein, dans un contexte capitaliste, le travail, travail abstrait, demeure toutefois la source de la valeur. Hein. Donc, parce que la valeur, c'est une médiation sociale qui est spécifique aux sociétés capitalistes, elle est d'emblée immatérielle, donc on ne peut pas distinguer travail immatériel, travail abstrait, c'est deux choses différentes. Donc, hein, parce que c'est une forme abstraite de richesse qui est produite par le travail abstrait. Donc, c'est là où on voit la contradiction centrale du capitalisme. Bien que le travail soit une activité qui est finalement de plus en plus anachronique, le capitalisme doit, pour se reproduire, continuer à se nourrir de l'activité humaine. Puis là, on a la contradiction centrale du capitalisme qu'Habermas, finalement, est incapable de voir. Hein. Selon Habermas, il n'y a plus de contradictions qui sont immanentes au capitalisme. Donc, le rejet des catégories de l'analyse marxienne va donc conduire à Habermas à analyser finalement un processus de rationalisation de la société, hein, qui se caractérise par une disjonction entre deux formes d'intégration sociale, hein, qui correspondent, on pourrait dire, à deux formes particulières de communication, celle du système puis celle du monde vécu. Hein. Le système, en gros, ça correspond au médium régulateur qui serait non langagier puis non normatif. Donc, le pouvoir puis l'argent, l'État puis l'économie. Donc, le monde vécu, hein, qui est son pendant, ça correspond à une espèce de réservoir culturel qui est propre à chacune des sociétés. Hein, c'est le lieu où se déploie finalement le mécanisme d'intégration sociale qui repose sur la communication puis le consensus, puis qui s'établit à partir du langage puis du dialogue. Donc, le problème, hein, de ce type d'analyse qui tente finalement d'appréhender une réalité sociale duelle en accolant deux approches qui sont essentiellement unilatérales, c'est qu'elle n'est pas en mesure de comprendre justement l'interrelation dialectique entre les formes d'objectivité, donc dans ce cas-ci le système, donc formes d'objectivité que prennent les rapports sociaux, hein, puis les formes de conscience humaine, donc tout ce qui est relatif à la culture, hein, donc les formes de subjectivité, rapport au monde des individus, que Habermas a nommé le monde vécu. Donc, la principale faille de cette théorie-là, c'est qu'elle réside, hein, dans cette séparation, qu'on pourrait dire quasi-ontologique, entre la sphère de la culture puis celle de l'économie. Même si Habermas soutient, hein, qu'ultimement, le système repose sur un horizon normatif qui est propre à la culture, il va quand même conclure que l'économie est en mesure de fonctionner de manière autonome, hein, c'est-à-dire sans la médiation d'aucun rapport social. Donc, le système économique, finalement, agirait de manière autopoïétique, pour reprendre un peu les termes de Luhmann. Hein? Donc, dans cette approche systémiste, la sphère de la reproduction matérielle, si on veut, elle fonctionne et s'auto-reproduit en l'absence de toute forme de médiation symbolique ou médiation culturelle qui serait propre finalement au monde de la culture. Donc, pourtant, ce qui est important de voir, c'est que la théorie de Marx, si on l'analyse comme il faut, elle consiste également justement à une théorie sociale de la conscience, puis de la subjectivité, qui analyse l'objectivité et la subjectivité comme étant dialectiquement liées. Hein? Cette théorie sociale des formes de conscience humaine, il faut le rappeler, elle est historiquement spécifique. Hein? Ça implique, hein, au contraire de la théorie d'Habermas, qui se trouve à analyser de manière transhistorique la constitution de la signification, donc de la culture. Pour Marx, les significations sociales n'appartiennent qu'à une époque particulière. Marx va résumer finalement la formule qui est au fondement de l'imaginaire de la modernité capitaliste, puis de la forme de sujet ou de subjectivité qui est propre à cette période-là, de cette manière-là. Puis je vais citer, il va dire « Ne règne ici que la liberté, l'égalité, la propriété et Bentham. Liberté, car l'acheteur et le vendeur d'une marchandise, par exemple la force de travail, ne sont déterminés que par leur libre volonté. Égalité, car ils n'ont de relation qu'en tant que possesseurs de marchandises et échanges équivalents contre équivalents. Propriété, car chacun ne dispose que de son bien. Bentham, car chacun d'eux ne se préoccupe que de lui-même. La seule puissance qui les réunisse et les met en rapport est celle de leur égoïsme, de leur avantage personnel, de leur intérêt privé. » Donc, selon Marx, hein, le sujet de la modernité, donc qui apparaît, sa forme d'apparition, comme étant libre et autonome, il surgit de manière concomitante à la généralisation de la médiation des rapports sociaux via la marchandise, puis également en même temps que l'aliénation du travail qui est indispensable à ce procès de valorisation capitaliste. Il faut rappeler, par contre, hein, que cet individu qui apparaît, sa forme d'apparition, qui apparaît comme étant autodéterminé, est en réalité soumis à la domination abstraite d'une totalité aliénée, hein, qui prend la forme d'une contrainte qu'on pourrait dire quasi-objective ayant force de loi, la loi de la valeur. Donc, la valeur, hein, ça devient la norme abstraite de régulation de la pratique sociale dans le capitalisme. Donc, la philosophie politique d'Habermas, hein, c'est un peu la critique qui est faite notamment par Castoriadis, qui est importante, je pense. Elle postule, hein, Castoriadis va dire qu'elle postule l'existence d'atomes humains déjà dotés, non seulement de droit, mais d'une connaissance parfaite des dispositions du droit, lesquelles tendraient d'eux-mêmes, inéluctablement et indépendamment de toute formation historique singulière, à se comporter comme des atomes juridico-politiques. Hein, Castoriadis va dire « La fiction de l'homo juridicus est aussi dérisoire et inconsistante que celle de l'homo economicus et la métaphysique anthropologique que les deux présupposent est la même. » Ça, c'est important de voir qu'il y a une homologie, finalement, entre le sujet politique et le sujet économique, qui est nécessaire d'historiciser. Donc, en ce sens-là, pour comprendre, j'en viens plus spécifiquement, au rôle de la communication dans le capitalisme, il faut donc comprendre ses fondements symboliques. Hein. Je pense que c'est pas innocemment hein, que Marx va utiliser la formule liberté, égalité, propriété, Bentham, parce que c'est justement chez Bentham qu'on retrouve le socle normatif sur lequel repose la forme que prend la communication dans une société marchande. Hein? La théorie de l'utilitarisme chez Bentham, à l'intérieur de cette théorie-là, il y a une théorie de la communication. Donc, Bentham soutient que pour que les individus puissent agir comme des acteurs qui calculent de manière efficace l'ensemble de leurs activités, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de surveillance mutuelle. Pour Bentham, le commerce humain est réglé par le pouvoir moral de l'opinion qui agit en quelque sorte comme un tribunal. Hein? C'est donc dire que qu'est moral ce que l'opinion publique va considérer comme tel. Donc, c'est l'opinion qui va fonder la valeur d'une personne. Pour Bentham, il y a deux grandes conditions qui sont requises pour que l'exercice du jugement moral de l'opinion publique puisse fonctionner efficacement. Premièrement, la visibilité la plus grande des conduites, donc la transparence. Deuxièmement, l'emploi d'une langue, donc un langage qui traduit le plus clairement possible l'état des intérêts des individus. Hein? Donc, premier point chez Bentham concerne l'exigence de transparence. Donc, pour lui, hein, il s'agit de faire en sorte que tous les citoyens se sentent incessamment sous les yeux du public. Donc, c'est la formule hein, du panoptisme diffus qui est souvent repris hein, par les Foucauldiens comme étant le panoptisme comme étant une institution transcendantale, finalement un peu étatique qui surveille les individus. Le panoptisme, c'est une surveillance mutuelle. C'est une surveillance qui est horizontale, finalement, qui n'est pas verticale. Donc le calcul individuel, le calcul entre les individus, ça suppose un espace de transparence. Donc, il s'agit finalement pour chacun de se savoir exposé aux sanctions de la société pour bien calculer, puis de savoir les autres dans la même situation pour pouvoir anticiper leur propre calcul. Donc, la visibilité de tous et chacun, c'est le double nécessaire d'une comptabilité individuelle puis sociale. Donc, la mesure, l'évaluation, l'estimation réciproque sont des aspects nécessaires de la société d'échange hein, où on ne vaut que par ce que l'on offre à la satisfaction d'autrui. Puis là, je vais un peu développer dans la troisième partie justement sur en quoi est-ce que ça peut ressembler aux médias sociaux puis à l'Internet. Donc, pour Bentham, pour être compté, on doit être perçu hein? Chacun dans ses comportements, comme étant unique, distinct des autres, comme étant finalement une unité de compte. Hein? Il s'agit de connaître la valeur de chacun et de ce qu'il apporte dans un espace retraduit en termes d'utilité. Hein? Donc, ça implique nécessairement un contrôle de tous par tous. Étant donné que dans une société libérale, le pouvoir politique ne peut pas tout diriger, hein, il doit compter sur la société elle-même, c'est-à-dire avec l'opinion publique qui va agir comme une puissance normative décisive pour faire agir l'individu dans le sens de l'intérêt collectif, hein, pour le faire produire ce qui est utile à la société. Donc, deuxième élément de la théorie de la communication qu'on retrouve chez Bentham, c'est l'importance primordiale qu'il accorde au langage. Hein, le langage est perçu comme un instrument de jugement dans la mesure où il va affecter autrui. Donc, le langage, c'est le médium de l'opinion publique, c'est le moyen d'exercer une morale, la pratique de cette morale. Donc, finalement, Bentham va appliquer au langage les règles de l'efficience, les règles de l'efficience économique, c'est-à-dire que la valeur du langage va être mesurée en fonction des effets qu'il est capable de produire. Hein. Laval, Christian Laval, qui a écrit des livres sur Bentham, sur le sujet économique, va dire hein, « La formule de la nouvelle normativité propre à la société de marché, c'est moins de transcendance, plus de surveillance. » Donc, dans la prochaine section, je vais en arriver plus spécifiquement au rôle de la communication dans les mutations du capitalisme, qu'on peut appeler financiarisé, globalisé, informatisé, pour voir qu'il repose justement sur les mêmes postulats que le sujet économique benthamien, puis également son corollaire qui serait le sujet politique, un peu qui est développé par Habermas. Donc, je vais analyser de manière plus précise le rôle d'éthique, le rôle de l'Internet, le développement des médias dans la reproduction symbolique puis matérielle du capitalisme avancé. Donc, il s'agit en gros de montrer comment les transformations du capitalisme avancé ont été accompagnées d'une transformation qui est également culturelle. Donc, j'ai essayé de montrer comment les transformations, si on veut parler de manière plus marxienne, dans le mode de production, se trouve à être interrelié de manière dialectique avec les transformations dans le mode de subjectivation du capitalisme. Hein, il faut donc analyser hein, l'interrelation dialectique que le sujet entretient avec une totalité qui prend une forme, qu'on pourrait dire, quasi-objective. Donc, en gros, hein, je vais essayer d'analyser le rôle des systèmes de communication dans la reproduction des catégories qui forment les représentations collectives. Premièrement, les mutations du capitalisme avancé, on pourrait dire, ont fait en sorte que la rationalité du système capitaliste a été sensiblement transformée dans la mesure où elle se fonde sur une forme de communication qu'on pourrait appeler autoréférentielle ou une communication cybernétique. Hein. Donc, les anciennes médiations qu'on pourrait appeler politico-institutionnelles du capitalisme, dans ce nouveau capitalisme, principalement financier, hein, laisse place à un nouveau médium qui est fondé sur des croyances autoréalisantes qui permettent justement à la médiation boursière de produire de la liquidité. Donc, ces mutations du capitalisme avancé font que son mode de représentation vienne à s'apparenter, donc hein, alors, sa forme phénoménale, c'est celle d'un système cybernétique, dans la mesure où de plus en plus les institutions du marché, donc on peut parler en des institutions, on peut penser aux institutions internationales, aux institutions financières, aux États, puis même aux médias, hein, vont définir de manière communicationnelle ce qui est une valeur. En gros, on pourrait dire que le discours sur l'argent devient l'argent lui-même. Puis là-dessus, hein, il y avait l'économiste du Conference Board, Glenn Hodgson, l'année dernière, qui a dit « L'attitude des médias aide à définir de quelle façon se sentent les consommateurs. Si les médias continue de dire que le ciel nous tombe sur la tête, les gens pensent que le ciel leur tombera sur la tête. Hein? » Donc, on peut dire que le capitalisme actuel, qu'on pourrait appeler financiarisé, se présente hein, comme une structure abstraite, réifiée, qui vient engendrer un processus d'auto-valorisation qui apparaît comme étant séparé de l'économie réelle, qui est séparé finalement, on pourrait dire en termes habermasiens, du monde vécu, puis qui évoluerait hein, dans un cyberespace virtuel, notamment celui des télécommunications, des technologies de l'information. Il reste hein, que cette forme de représentation du capitalisme, c'est hein, une forme phénoménale de l'objectivation des rapports sociaux qui sont spécifiques au régime d'accumulation financière. Donc, on pourrait dire que cette objectivation-là, elle résulte d'un double fétichisme, celui de l'argent puis de la technologie. Donc, hein, on peut dire que l'argent, en ce sens-là, ça ne se limite pas uniquement à un médium de communication impersonnel, comme dira Habermas. Hein. Dans les sociétés capitalistes, l'argent symbolise également une médiation sociale, puis une domination dépersonnalisée. Donc, l'imaginaire, hein, si on veut, de la globalisation financière qui est représentée par la bourse, c'est la manifestation d'une forme d'objectivité d'un rapport social qui continue à être médié par le travail abstrait. À la différence, si on veut, des régimes d'accumulation antérieure, la consomption, la subsomption du travail présent se trouve à être remplacée par un travail futur. Hein. C'est du temps futurisé, finalement. Hein. C'est une forme d'accumulation du capital dans un temps futurisé qu'on pourrait dire complètement fictif. Hein? Donc, on ne peut pas voir, selon moi, au sens habermasien, le capitalisme financiarisé comme une déconnexion entre un système puis un monde vécu, principalement parce que l'accumulation, elle s'appuie de plus en plus sur un ancrage symbolique hein, qui repose, en gros, sur le niveau de confiance qui est produit par l'opinion publique de la communauté financière globale. Hein? Donc, en ce sens-là, la crise économique, ça exprime une rupture du lien social, une crise de confiance qui prend place lorsque la médiation qui est articulée par le fétichisme de l'argent arrête d'opérer sa magie. Hein. Donc, dans le nouveau mode de régulation qu'on pourrait appeler financiarisé, la valeur d'usage de l'information, c'est-à-dire, on pourrait dire, l'énoncé de vérité au sens habermasien, correspond effectivement plus à aucune utilité sociale. C'est l'information qui détient le plus de valeur, qui, finalement, celle qui est répétée le plus souvent dans un flux communicationnel autoréférentiel qui devient la plus valorisée. Donc, la valeur de l'information, de manière tout à fait benthamienne, si on veut, ne réfère qu'à l'efficacité sur laquelle elle se fonde, c'est-à-dire sa capacité à produire des effets. Hein, donc, le discours argumentatif va laisser place au discours performatif, répétition, écho, redondance, résonance, viennent remplacer la réflexivité. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est que ce mode de régulation se nourrit constamment, énormément, de la transparence, de la communication qui se trouve finalement au fondement des théories habermasiennes. Hein. Donc, dans cette nouvelle régulation du capitalisme, il faut voir qu'il y a une transformation de la forme d'objectivité, puis également de celle, une transformation plus subjective, plus culturelle, qui correspond aussi aux mutations, aux transformations épistémologiques qui sont propres à la théorie économique qu'on pourrait qualifier de néolibérale. Hein. Donc, par exemple, chez Hayek, on retrouve une théorie de la communication, une théorie de la cybernétique qui présente et qui définit le rapport du sujet au monde en termes d'information. Hein? Donc, il y a une espèce de révolution, si on veut, épistémologique qu'on trouve dans le néolibéralisme qui consiste à appliquer le paradigme hein, de la le paradigme microéconomique de la firme au sujet individuel lui-même. Donc, dans la théorie économique néolibérale, les individus, ce qui est important de voir, c'est qu'ils sont peu uniquement considérés comme des consommateurs, hein, qui expriment leurs préférences dans le marché. Ce sont aussi et surtout, je dirais, des entrepreneurs qui sont responsables d'eux-mêmes, qui viennent produire leur propre satisfaction en s'échangeant des informations via le processus du marché qui est retraduit comme un processus de communication. Hein? Donc, ça fait dire, entre autres, à certains auteurs néolibéraux que le capitalisme tel qu'il est conceptualisé par Hayek, c'est un exemple de communication pure et parfaite tel que caractérisé par Habermas. Puis ça, on le voit hein, dans certains théoriciens de la communication, un peu techno-utopiques, hein, par exemple Pierre Lévy, qui dit, en gros, hein, que l'interconnexion de manière numérique de l'ensemble de la planète, c'est une manifestation de ce qu'il appelle l'intelligence collective. Hein. Pour lui, l'intelligence collective, ça consiste en une capacité d'apprentissage autonome qui émergerait d'un processus d'interaction circulaire puis autoreproducteur qui prend place entre un grand nombre de systèmes complexes. Donc, hein, grâce à la communication en réseau, il y aurait un ordre autorégulé qui apparaîtrait, qui surgirait spontanément des différents savoirs fragmentés puis partiels qui sont possédés par chacun des individus. Puis on retrouve ça aussi hein, beaucoup dans la technoculture, notamment Kevin Kelly, qui est rédacteur en chef de la revue Wired, dit hein, reprend finalement cette idée d'intelligence collective en disant « The surest way to smartness is through massive dumbness ». Donc, on atteint l'intelligence à travers l'imbécilité généralisée. Hein? Donc, dans cette perspective, chaque node individuel, qui est finalement irrationnel, c'est l'équivalent du sujet néolibéral, on pourrait l'appeler un sujet autorégulé, se trouve à communiquer entre elles dans des réseaux technologiques, puis participerait à l'avènement de l'intelligence collective, qui est dans les faits hein, une forme, si on veut, d'aliénation qui est généralisée. Donc, cette conception-là, on la retrouve aussi dans la conception de la démocratie qui est comprise comme un marché. Hein. Je pense qu'André en a parlé, hein, les publicitaires, t'en avais parlé, je pense, dans ton dernier séminaire sur le Web 2.0, les publicitaires québécois, Gougou, puis Buclair, qui parlent de la révolution du Web 2.0, qui donne du pouvoir aux individus, puis les transforme, ils disent, en citoyens numériques, qui s'exprimerait dans une agora grecque renouvelée. Ils disent, je vais citer, c'est intéressant ce qu'ils disent, ils disent « Pour mieux commercer avec le citoyen numérique, une règle d'or apparaît et s'impose, l'entreprise, les marketeurs, nous les communicateurs et les publicitaires, devront apprendre à mieux converser avec lui. Pour garder le contact avec le consommateur d'aujourd'hui, il faut lui céder le contrôle. Voilà le lieu où s'exprime l'audace de la nouvelle citoyenneté numérique, céder le contrôle au consommateur, rien de moins. » Donc, on amalgame directement hein, la consommation avec un acte politique, finalement. Donc, ce sujet-là, hein, cette valorisation d'un type de sujet qu'on pourrait dire autorégulé, qui est propre à ce type de capitaliste qu'on pourrait appeler cybernétique, se trouve hein, à communiquer sa différence, puis finalement son image de marque pour exister. C'est l'équivalent hein, de la théorie de la communication chez Bentham. On retrouve ça hein, dans les propos des gourous du management. Par exemple, Tom Peters, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Brand Called You ». Il dit « Big companies understand the importance of brands. Today, in the age of individuals, you have to be your own brand. Here's what it takes to be the CEO of Me Incorporated. » Donc, le « Moi Inc. ». Hein, qui est corollaire, finalement, d'une représentation de la société en réseau, donc réticulée. Donc, ce sujet-là, qui est auto-régulé, hein, s'apparente finalement aussi à l'espèce de soi décentré puis fluide qui est célébré dans énormément d'approches postmodernistes. On peut penser à Deleuze, notamment. Hein. Donc, il faut voir que plutôt que de s'émanciper des relations de domination, on pourrait dire qu'ils participent à leur reproduction, hein, finalement en fusionnant la figure du consommateur puis de l'entrepreneur de lui-même. Donc, en tant que consommateur, finalement, il finit par se consommer lui-même à travers les images qui lui sont présentées, les marchandises puis les divertissements des médias de masse puis des tics. D'autre part, en tant qu'entrepreneur, ce sujet autorégulé, doit faire son autopromotion pour augmenter l'ensemble de ses capitaux, parce que l'ensemble de la vie humaine est retraduite en termes de capital, que ce soit en capital financier, capital économique, capital communicationnel, capital réputationnel, capital amoureux, je vais en parler un peu plus tard. Hein? Donc, on pourrait parler d'un espèce de régime d'auto-réification où le sujet vient à se présenter lui-même comme une marchandise avant d'avoir été réifié, si on veut, dans l'acte de travail et dans l'acte d'échange. D'ailleurs, si vous regardez hein, le cahier de la presse, le cahier carrière de la presse, hein, on voit souvent les spécialistes des relations industrielles qui disent que les travailleurs doivent utiliser les TIC pour faire le marketing de soi. Donc, hein, on est directement en lien avec l'idée d'un moi Inc. ou d'un entrepreneur de lui-même. Donc, on pourrait dire hein, que plutôt dans ce sens-là, dans ce contexte-là, plutôt que d'être des médiums qui renforcent le pouvoir des individus, l'Internet et les TIC, ça devient des outils de dépolitisation hein, de l'économie, dépolitisation finalement des catégories. Hein, quand j'en ai la critique de l'économie politique doit être une critique catégorielle. En ce sens-là, ici, on dépolitise complètement les catégories qui sont constitutives de l'économie. Donc, par exemple, hein, on peut penser à Facebook, hein, qui est effectivement, en plus d'être un lieu, si on veut, d'accumulation du capitalisme financiarisé, tout le monde se tire pour acheter des actions de Facebook qui font en sorte que sa valeur boursière est complètement déconnectée de la valeur réelle. Microsoft en a acheté pour 240 millions de dollars l'année dernière. Puis donc, ça a fait augmenter énormément la valeur boursière de l'entreprise. Mais il faut voir aussi, dans la perspective que j'ai essayé de regarder, c'est aussi un lieu de socialisation, mais un lieu de subjectivation. Hein. Donc, la configuration, si on veut, réticulaire, permet, des réseaux sociaux, permet finalement aux différents membres de comparer leur popularité en fonction du nombre de contacts qu'ils ont accumulés. Donc, on est dans la quantification du rapport interindividuel. Donc, la socialisation du sujet se fait justement par l'intériorisation des cadres catégoriels puis normatifs qui sont propres au régime d'accumulation financiarisé. Donc, le sujet entre en rapport avec les autres puis avec lui-même, finalement, en s'auto-publicisant de manière permanente. Il doit faire la publicité de lui-même. Puis, juste un exemple aussi pour montrer l'homologie avec la théorie économique. L'Institut économique de Montréal, il y a 2 ans, a publié une note de recherche sur les sites de rencontres Réseau Contact. Hein. Puis l'auteur de l'étude, finalement, fait une analogie entre le fonctionnement de ce site-là puis la rationalité économique. Il va dire, si les sites de rencontres sont effectivement des marchés, le comportement de leurs usagers devrait être influencé par les déterminants économiques habituels, prix, quantité, coût de redonciation, etc. Donc, pour lui, pour l'auteur, les sites de rencontres, c'est un marché de relations amoureuses qui permet finalement aux abonnés de réduire les coûts de séduction en termes de temps. Donc, c'est moins long, donc ça permet de maximiser son efficience. Donc, les différents vendeurs dans le marché de l'amour envoient des signaux qui sont conçus comme des informations que les acheteurs vont juger comme crédibles ou non. Donc, encore là, il y a une théorie de la valeur économique qui explique que chacun des individus ne sont pas égaux. Hein. C'est tributaire de la rareté du produit. Donc, les femmes entre 18 et 35 ans, c'est des denrées rares qui possèdent une valeur marchande qui est plus élevée que celle des femmes de plus de 55 ans qui sont plus présentes sur ce type de marché amoureux. Donc, ça illustre, selon moi, une espèce de processus d'auto-réification dans laquelle, finalement, les individus doivent gérer leur vie comme on gère une entreprise. Hein? Donc, comme on gère aussi ses relations amoureuses. Donc, cette vision du monde, cette vision des rapports sociaux, elle est largement diffusée à travers différents lieux de socialisation, différents canaux. Puis c'est pas seulement les médias, hein. Finalement, c'est le système d'éducation, les rapports avec les pères, l'amour aussi, qui est devenu de manière ridiculée, la famille. Puis ça possède finalement une espèce de force performative dans la mesure où la socialisation du sujet se fait par l'intériorisation des catégories marchandes. Puis l'individu devient un entrepreneur de lui-même, comme finalement à la manière dont il est imaginé par les économistes néolibéraux. Puis ça, finalement, c'est pas nouveau. Henri Lefebvre analysait ça à travers lorsqu'il parlait du cybernanthrope, qui analysait l'intériorisation de la rationalité économique par les sujets sociaux. Il disait, justement, à propos, il y avait une réplique, finalement, à l'IEDM, puis c'est marché de l'amour. Il disait à propos du cybernanthrope, il disait, le principe d'économie, lui, apprend à traiter économiquement sa vie affective, cette résurgence, cette faiblesse. Hein? Puis Lefebvre parlait du cybernanthrope, il disait, en gros, que c'est une parodie d'autogestion. Je ne sais pas si vous avez lu aussi un livre de la sociologue Eva Illouz qui s'appelle « Les sentiments du capitalisme ». Elle précise justement que cette transformation du moi en marchandise vient mobiliser tout le langage puis les techniques qui sont liées finalement à la démocratie, à la transparence, à la communication. Hein? Donc, ça montre en gros que la rationalité économique, finalement, n'est pas si séparée du monde vécu que ça. Hein? Plutôt, elle s'en nourrit, puis elle l'instrumentalise. Donc, lorsqu'on parle de rationalisation, puis souvent on parle de désymbolisation du monde, il faut voir comment il y a une instrumentalisation aussi du symbolique derrière la rationalité économique qui permet finalement la reproduction des rapports sociaux. Donc, on pourrait dire que la rationalité économique se nourrit de la rationalité communicationnelle, donc du vécu, du monde vécu, puis du monde culturel. Il me reste combien de temps?
Moins 3 minutes.
Je rentre dans ma conclusion. Donc, pour conclure, on peut dire que la théorie critique en communication doit finalement retourner à ses origines qui consistaient à comprendre les phénomènes communicationnels comme étant liée de manière dialectique avec une totalité, c'est-à-dire une structure aliénée qui est le capital. Hein? Il s'agit, selon moi, d'une part de transcender les approches en économie politique de la communication qui, trop souvent, hein, tendent à tirer une espèce de lien de causalité entre le type de structure économique et sociale dans lesquelles sont produits les discours médiatiques, puis la structure sémantique de ces mêmes discours. Puis, il faut également transcender les approches d'inspiration postmoderniste, poststructuraliste, on peut dire, qui viennent nier l'existence de cette totalité pour souvent analyser en des micro-pratiques informationnelles, puis qui viennent valoriser la mise en réseau des relations sociales, alors que ces pratiques-là, hein, dans les faits, se situent sur le même plan ontologique que le capital, puis participent de leur sa reproduction systémique, donc reproduction des rapports de domination dépersonnalisés qui sont propres au capital. En gros, hein, faut donc retourner aux travaux, selon moi, originels de l'École de Francfort, qui consistaient en une sociologie des médiations. Toutefois, il faut reconnaître que les écoles de Francfort demeuraient prisonniers des catégories de l'économie politique traditionnelle. Donc, hein, chez Francfort, on voyait le travail comme une action purement instrumentale, donc un rapport entre l'homme et la nature, donc qui n'était pas en mesure de saisir qu'il s'agissait là justement d'une médiation sociale qui est spécifique à une réalité sociale historique particulière qui est celle du capitalisme. Donc, dans cette optique, hein, la théorie critique doit nécessairement réinterroger aussi historiquement les concepts de raison, concepts d'universalité, concepts de justice qui servent, qui pourraient servir d'appui à une critique, on pourrait dire critique de la valeur au sens économique. Donc, s'agit pas non plus de reprendre une critique, je pense, un peu naïve de la modernité qui est faite par le postmodernisme, qui rejette toute idée d'universel finalement au profit d'un particularisme, ni non plus de part de dire que les idéaux de la modernité représentent un moment non capitaliste de la société moderne qui aurait été détourné au profit d'une classe dominante, mais montrer comment, hein, dans la manière dont ils se représentent, ils sont constitutifs aussi de la modernité capitaliste. Donc, la théorie critique, en gros, en doit viser à théorie critique nécessairement doit viser l'émancipation sociale. Donc, pour que l'émancipation sociale soit possible, il faut briser, si on veut, la cage de fer weberienne que constituent les catégories capitalistes, que sont le travail, la marchandise, puis la valeur, qui sont, comme j'essayais de le montrer, hein, des médiations, si on veut, sociales, autonomisées, qui prennent la forme d'abstractions réelles. Donc, en ce sens-là, hein, on peut dire que le désenchantement du monde qui est propre à la modernité capitaliste n'est pas dû, comme dira Habermas, à la domination de la rationalité instrumentale sur la rationalité communicationnelle, mais plutôt, hein, à la domination de la rationalité de la valeur qui vient imprimer sa finalité à la fois à la rationalité communicationnelle puis à la rationalité instrumentale. Merci.
Qui donnait le temps de mesure de la valeur de la richesse. Est-ce qu'on est en train de dire que le dépassement, disons, du fétichisme marchand, il est rendu possible par l'évolution technique? L'automation, par exemple?
En partie, c'est-à-dire qu'il faut le penser encore une fois de manière dialectique. La technique, la technologie, c'est l'objectivation du savoir humain. Hein? Donc, le capitalisme rend possible, d'une certaine manière, hein, une productivité énorme, immense, à partir d'un savoir humain aussi. Mais ce savoir-là, il faut comprendre qu'il est aliéné. Hein. Donc, c'est d'où la dialectique. Hein. Donc, la technologie rend possible quelque chose, mais elle existe sous une forme aliénée. C'est-à-dire que l'aliénation actuelle, contemporaine, donc, elle correspond davantage à la capacité d'agir et de savoir aussi, qui est objectivée. Donc, l'aliénation, c'est pas juste l'aliénation du travail, la désaliénation du travail, c'est aussi l'aliénation d'une forme de savoir. Donc, il y a une critique aussi épistémologique qui doit être faite ici, dans la mesure où chaque société a sa propre épistémologie, son propre rapport, finalement, au vrai ou au faux. Donc, il faut désaliéner le savoir pour que le savoir, plutôt que de posséder, si on veut, une forme propre, autonomisée, etc., donc, d'où où, les finalités ne sont plus données par la société puis les humains, la finalité du savoir actuel est donnée dans la technoscience, notamment par la valeur puis le processus de valorisation. Donc, c'est se rapproprier aussi ce qui est, ce qui existe sous une forme aliénée, donc notamment le savoir puis la technique. Donc, c'est là où la dialectique rend possible parce que, justement, la technologie rend obsolète le travail humain en tant que tel. Mais, dans le capitalisme, pour que le procès de valorisation soit possible, il doit recourir au travail quand même. Donc, nécessairement, on produit du travail pour reproduire toujours davantage de travail, ce qui conduit à une dynamique sociale qui est complètement hors de contrôle. Donc, parce qu'il faut constamment reproduire une médiation sociale qui est fétichisée. Hein? Donc, alors qu'on pourrait finalement diminuer de manière radicale le temps de travail pour s'adonner à des activités sociales qui seraient davantage finalisées, donc qui ne seraient pas comprises en termes de travail au sens moderne. Hein, travail, c'est-à-dire comme lien, comme nécessité d'entrer dans un lien social qui sert, qui participe d'une reproduction systémique. Ça veut pas dire. Donc, la critique du capitalisme, quand je dis que c'est une critique des catégories, c'est une critique du travail aussi en tant que catégorie moderne. C'est-à-dire que dans les sociétés antérieures, la catégorie du travail moderne n'existe pas. Puis même souvent, ce terme-là n'est même pas utilisé. On parle de labeur, d'ouvrage, etc. C'est une activité qui est davantage signifiante aussi, hein, qui est inscrite dans un ensemble de normes, de rapports symboliques, etc. Puis le travail vient perdre son sens, finalement, dans le capitalisme parce qu'il n'est plus une activité finalisée, donc donnée par les individus.
Okay. Je me demandais, Maxime, dans la... Tu parles de l'objectivation de la technique, c'est un terme qu'on retrouve chez Simondon, notamment avec l'espèce de ce qu'il appelle l'autotranscendance de la technique. Chez Heidegger aussi, la technique permet de révéler le monde et le sujet dans le rapport mutuel, d'où je pense aussi une dialectique. Est-ce qu'on peut faire un parallèle ou mettre en rapport, tiens, ça avec ce que Marx écrit dans Le Gundris à propos de l'intellect général, qui est une notion qui n'a pas été beaucoup extirpée? Que je ne connais pas assez à mon goût. Quel rapport tu penses
entre
les deux?
Oui, oui, c'est tout à fait. Hein. Quand Marx parle de General Intellect, bon, c'est un peu, j'ai cité un passage, mais c'est un peu la suite, c'est dans le même chapitre sur l'intelligence générale. C'est l'intelligence générale qui devient la principale force productive, Marx va dire. Puis ça, ça a été repris hein, beaucoup justement par les théoriciens du capitalisme cognitif, mais qui finalement, le gros problème, c'est qu'il ne se situe plus justement dans les catégories d'aliénation puis de fétichisme. Donc, ils font en sorte qu'ils prennent le savoir de la manière dont il existe actuellement sans voir que la manière dont il est produit puis objectivé existe de manière aliénée. Donc, d'où la dialectique, ce qui rend possible une voie de dépassement du capitalisme, donc une société post-capitaliste qui serait fondée sur l'intelligence générale, existe, mais de manière aliénée dans l'objectivation de la technique telle qu'elle est utilisée pour une finalité de reproduction capitaliste. Hein? Donc, c'est là où il y a une dialectique du possible entre, finalement, le monde tel qu'il est, donc, dialectique, on pourrait aussi dire, de la liberté et de la non-liberté, hein, finalement. Hein? Donc, ça voudrait dire, en gros, hein, qu'une société post-capitaliste serait fondée sur, aussi, hein, accorderait une importance à la science puis à la technologie, mais comprise de manière différente. Hein? Donc, une autre forme de société, c'est-à-dire carrément un autre imaginaire social qui imprimerait de nouvelles normes, de nouvelles valeurs, de nouveaux critères aussi catégoriels pour penser les rapports sociaux. Donc, en ce sens-là, effectivement, c'est le problème, finalement, la manière dont il a été interprété souvent, c'est ce passage-là des Gounris, parce que tu retrouves ça aussi chez Pierre Lévy. Pierre Lévy parle d'intelligence collective, mais il s'appuie directement sur une épistémologie néolibérale qui refuse toute idée de synthèse sociale. Donc, impossibilité, hein, parce que la théorie épistémologique qu'on retrouve chez Hayek, c'est finalement, on cherche à légitimer le marché du fait, hein, plus du fait, finalement, on repose plus sur un marché pur, sur le postulat d'un marché pur, mais plutôt sur l'idée d'une division sociale de la connaissance pour empêcher une forme de totalitarisme, parce que toute idée de synthèse sociale est nécessairement totalitaire dans cette optique-là. Donc, ce qu'il faut faire en ce sens-là, c'est que chacun des individus qui possède un savoir tacite, hein, puisse finalement entrer en connexion les uns envers les autres dans une idée de marché, dans une idée de réseau. Chez Hayek, ça se retrouve, ça s'appelle la catalaxie. La catalaxie, c'est un réseau. C'est le fonctionnement du marché, selon Hayek. Donc, ça veut dire que c'est un peu les individus qu'on produit à l'heure actuelle, incapables de faire une synthèse sociale, qui serait la base d'une théorie critique, hein. C'est des individus qui possèdent uniquement un savoir qu'on appelle tacite, donc technique, fragmentée, dans sa petite affaire, donc comme un entrepreneur de lui-même, donc qui entre en interrelation de manière ridiculée les uns avec les autres. Donc, on est dans une forme de savoir qui est nécessairement aliénée. Puis c'est ça qui est valorisé par Lévy, par beaucoup de la technoculture notamment, dans les théories plus marxisantes, je pense à Arte Negri, tout ça, donc qui se situent carrément dans le réseau, alors qu'ils ne voient pas qu'ils sont carrément sur le même plan finalement ontologique que le capital de la manière dont il fonctionne actuellement.
J'ai une question de clarification en ce qui concerne l'école de France. Tu fais un appel à l'école de France. En ce qui concerne l'histoire des idées, tu fais référence à quelle période? Est-ce qu'on sait, on est rendu à la troisième génération?
Ouais.
Est-ce que tu inclus Benjamin là-dedans? Est-ce que tu l'arrêtes à Marcus? Ah. Est-ce que tu mets
assez généralement, là, donc j'ai essayé de présenter l'école de Francfort de manière assez générale, schématique, principalement par leur rapport leur rapport à Marx puis à la critique de l'économie politique. Puis je pense qu'ils tombent tous plus ou moins dans le même panneau. Hein. Je fais peut-être moins référence à Benjamin, qui est plus littéraire, plus aux théories sociales, donc nécessairement Adorno, Horkheimer, qui sont les principaux selon moi, qui restreint justement dans ce que je disais, dans les catégories de l'économie politique. Donc, qui se représente le travail comme pure activité instrumentale. Marcuse, c'est peut-être un peu différent dans l'homme unidimensionnel. Il s'approche un peu d'une idée, hein, de sortir de possibilité de sortie du capitalisme, mais il se base sur un machin plus freudien de libération des désirs, etc., qui est un peu en phase avec ce qu'on voit actuellement. Donc, je pense qu'il a frappé un mur, disons, Marcuse aussi, avec la contre-culture qui valorisait. Donc, il n'a peut-être pas insisté assez, justement, sur l'idée d'une... chez Marx, qu'il y avait une critique catégorielle qui était nécessaire, puis qui était finalement une critique immanente. Hein. Puis... si on regarde plus dans les générations actuelles de l'école de Francfort, honnête, selon moi, se situe directement dans le même paradigme que Habermas, outre le fait qu'il se situe dans une théorie de la reconnaissance, mais une théorie de la reconnaissance qui est pré-sociale, qui prend pas en considération justement les rapports sociaux capitalistes. Donc, quand il écrit un livre sur le fétichisme, où il détruit finalement Lukács, mais sans même prendre vraiment connaissance de ce que Lukács explique du fétichisme, puis de la reconnaissance, hein, donc c'est la philosophie du jeune Hegel, alors que chez Marx, il y a une théorie de la reconnaissance qui est beaucoup plus puissante, selon moi, parce qu'elle se base sur la théorie d'Hegel, la dialectique du maître-esclave. Hein, c'est-à-dire que le travailleur est reconnu par le capital, puis le capital reconnaît le travail, puis le travailleur, etc. Donc, il y a une théorie de reconnaissance qui implique une perspective dialectique de transformation conscient, puis de sortir de cette un peu de dialectique du maître esclave là, dans la mesure où elle est, elle consiste en un rejet. C'est là où tous les problèmes, hein, c'est que la force dominante n'est pas personnalisée en tant que telle. C'est-à-dire que le capitaliste, si on lit bien le Capital, hein, c'est pas, il ne dirige pas le procès. Hein, c'est un fonctionnaire finalement au service de la valeur. Donc, le capital, c'est le grand sujet, mais sujet qui n'existe pas au sens personnalisé du terme. Donc, c'est pour ça que la possibilité de sortie du capitalisme, elle n'est pas nécessairement celle d'un prolétariat, puis des ouvriers, etc., dans la mesure où, hein, si on observe les transformations du capitalisme, les travailleurs ont été reconnus, si on veut, par le capital en ayant un ensemble de droits sociaux, etc., qui font en sorte que, pour être reconnus, ils doivent agir en sujet bourgeois, demander des droits. Hein? Donc, c'est pas... cette optique-là a fait en sorte de pas de transcender le capitalisme, plutôt de le transformer vers son passage à la société au capitalisme avancé ou au capitalisme post-libéral, finalement. Ça veut dire que les sujets sociaux qui sont potentiellement révolutionnaires ne sont pas non plus déterminés, ils sont produits par le capital. On peut provenir des nouveaux mouvements sociaux aussi à l'heure actuelle, bien que les mouvements sociaux, de la manière dont ils fonctionnent actuellement, se situent davantage dans une optique, selon moi, de légitimation du capitalisme que de transformation réelle. Habermas aussi, hein, regarde les mouvements sociaux, les nouveaux mouvements sociaux dont on parlait dans les années 80, comme un peu la voie de sortie, mais non, il ne pensait pas en possibilité de sortie. Hein, il pensait en possibilité uniquement de résistance, hein, parce que il n'y a plus de critique immanente qui est faite par Habermas. Donc, les institutions économiques, politiques, c'est une fatalité, elles doivent fonctionner de cette manière-là. Tout ce qui nous reste à faire, c'est un peu c'est de protéger le monde vécu contre le système. Alors, il n'y a pas de possibilité de transcender les formes de domination actuelles. Puis si on regarde, ben, chez Honneth, il est dans une théorie de la reconnaissance, donc des pathologies sociales qui sont pensées uniquement d'un point de vue très extérieur en plus. Hein. C'est pas une critique immanente qui fait, c'est une critique extérieure, donc tout à fait normative, qui dit qu'il y a une bonne reconnaissance puis une mauvaise reconnaissance selon un point de vue tout à fait extérieur à la société, comme la manière dont elle fonctionne actuellement. Je pense que c'est une voie qui a beaucoup de limites. Donc, pense pas justement sociologiquement une critique immanente qui est incapable de penser des contradictions dans le capitalisme.
Éric Georges, l'École des médias du CAP. Je vais poser deux questions et puis en fait, je me suis en train de me rendre compte qu'elles sont liées. J'aimerais bien que tu reviennes quelques instants sur. Tu as parlé du passage d'un discours argumentatif. Performatif, et on le voit en effet dans les théories qu'on peut mobiliser en communication et ailleurs, qu'il y a eu tout un tas en effet de discours, notamment sur les technologies, mais pas seulement, qui ont en effet plus d'être performatifs que argumentatif. Et tu as lié ça, je pense, alors je ne sais pas si c'est une citation, mais tu as parlé de la fin de la réflexivité. J'aimerais bien qu'on tombe là-dessus, et puis. Une autre question, je me demande si je ne l'avais pas abordé déjà il y a quelques années à Ottawa lors de ta soutenance, c'est la question de la formalité du savoir et le rôle de l'université par rapport à justement à une forme aliénée ou éventuellement non aliénée du savoir. Tu faisais allusion, enfin, tu mentionnais la question du savoir technique fragmenté. Je suis frappé par exemple de voir tout à fait spontanément, pas beaucoup, hein, mais quelques études de premier cycle qui viennent nous voir et qui estiment en effet que à peu près tous les savoirs au premier cycle sont uniquement d'ordre technique et absolument pas ni réflexif ni critique.
Pour ce qui est du discours performatif, versus le discours réflexif, effectivement. Puis je pense que ça, hein, malgré qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Lyotard avait mis le doigt sur quelque chose, hein, lorsqu'il a écrit La condition postmoderne en 1980. On se demande, est-ce que c'était un discours performatif ou un discours réflexif, parce que c'était une commande de la crépuque à l'époque, ou l'ancienne crépuque. Mais il disait, hein, quelque chose en gros, hein, finalement... dans les sociétés post-industrielles, post-modernes, dans la mesure où on peut acheter, commander des savoirs, le critère n'est plus celui d'une raison transcendantale, n'est plus un critère de vérité. Le critère de vérité n'est plus celui de la raison, c'est celui de l'efficacité sur lequel se fondent tes recherches. Puis, ce discours, cette conception-là du savoir se retrouve dans l'ensemble des travaux de recherche qui s'appellent la recherche, qui servent d'appui pour légitimer les transformations de l'université. J'en avais parlé peut-être la dernière fois, Gibbons puis Limoges, ils parlent d'un « mode 2 of production of knowledge ». C'est-à-dire hein, qu'ils disent, bon, ben, le savoir dans les sociétés antérieures, donc dans les sociétés modernes, devait se valider à travers une communauté scientifique qui décidait de ce qui était vrai, de ce qui était bon, etc. C'est une forme beaucoup trop hiérarchique et autoritaire. Hein? C'est pas démocratique. Le principe de démocratique implique qu'on doit déhierarchiser le savoir, puis finalement faire en sorte qu'il soit utile à la société. Hein? Donc, le critère de validité ne sera plus les scientifiques, mais la société. Donc, les recherches doivent être faites en fonction, finalement, du marché. Donc, quand on parle de société, il parle bien sûr de marché ici. Hein? C'est le marché qui va décider du critère de validité. Puis c'est ça qui se passe actuellement en recherche, même pure puis scientifique. Si on regarde ce qui se fait dans le domaine des médicaments, le ghostwriting, hein? Les compagnies produisent des résultats, font une recherche sur une pilule quelconque, puis vont payer des scientifiques pour imprimer le sceau de la légitimité, de la vérité scientifique sur les travaux. Donc, effectivement, on en arrive que c'est carrément du discours performatif. Là. Ce n'est plus il n'y a plus aucune réflexivité là-dedans. C'est vraiment une sphère d'influence, une sphère de pouvoir qui est appliquée finalement au savoir, puis finalement au langage même. Hein. Le discours performatif, c'est l'aliénation du langage. En gros, hein, on n'est plus dans un langage réflexif ou finalement qui nous surplombe et qui fait en sorte qu'on puisse rentrer en relation les uns les autres. On est dans la quantification du discours, dans la quantification de tout. Puis on retrouvait ça chez Bentham. T'sais, c'est pas donc à l'époque de Bentham, on n'en était pas arrivé, on n'en était pas là. Mais disons que ce qu'il dit hein, sur la communication puis le langage peut très bien s'appliquer à nos sociétés actuelles de plus en plus. Puis si je sais pas si vous avez vu dans le journal cette semaine, il y avait une nouvelle qui disait on est à l'ère bientôt des robots journalistes. Hein? Puis ça, c'est une nouvelle qui est sortie il y a peut-être 3 semaines dans Le Monde, où finalement hein, on n'aura même plus besoin d'individus pour produire des informations, il suffit d'avoir des robots, des machines qui vont colliger les statistiques d'un match, qui vont reproduire de manière quasiment parfaite l'équivalent d'une dépêche de l'agence des agences de presse. Donc, si on n'est pas dans une forme finalement de machinisme qui s'applique à la pensée, c'est carrément ça, c'est du machinisme appliqué à la pensée. Donc là, on est dans l'aliénation du savoir assez de manière assez directe, précise. La deuxième question, ben justement, sur le rôle de l'université et du savoir réflexif, ben effectivement, ça devrait être le lieu où, qui est finalement un peu protégé de l'environnement extérieur, des pressions marchandes. Mais le problème, hein, c'est que la conception qu'on a des institutions puis de l'université est de plus en plus modelée sur une idée marchande de consommateur. Aussi, hein, les étudiants sont de plus en plus des consommateurs qui viennent acheter des savoirs qui vont servir au marché du travail. Donc, tant que t'es aussi longtemps que l'université va être un lieu de formation de main-d'œuvre, on est un peu foutus, là, je pense. Non, sérieusement, il faut vraiment faire une barrière entre l'université et le marché, puis c'est plus le cas. Mais le problème, c'est que l'individu qui arrive, lui, a été socialisé de même. Donc, il arrive à l'université, puis on lui a toujours dit, depuis qu'il est petit, hein, qu'il est un consommateur d'une certaine manière, que le savoir, c'est plus important, parce que tu peux le construire toi-même. Hein, c'est le constructivisme. Donc, il n'y a plus vraiment de savoir formel, il n'y a que des interactions, un processus d'auto-apprentissage. On s'apprend soi-même, ce qui est complètement une impossibilité logique, hein, parce que l'éducation, c'est justement, ça implique l'idée de transmission. On doit transmettre une culture, puis un ensemble de connaissances. Donc, on n'est pas d'une feuille de chou, hein, donc nécessairement, il faut qu'il y ait un rapport entre le maître puis l'élève. Donc, dans la mesure où tu dissous ce rapport-là, où tout est sur un niveau d'horizontalité, ben c'est le principe du marché qui s'applique aux rapports sociaux. Donc, ceci dit, pour l'université, je pense que c'est pas encore un lieu de perdition non plus. Il faut protéger les... Il faut la sauver, justement, des pressions externes qui veulent finalement transformer sa finalité en lieu de production, de savoir commercial puis valorisable. Puis c'est de plus en plus ça qu'on cherche à faire. Si on écoute le discours sur la relance économique, c'est quoi, hein? Il faut favoriser l'innovation, la recherche et développement, la technologie, etc. Où ça va être fait? Ça va être fait à l'université, principalement parce que... Puis ça, je suis en train de travailler justement avec Éric Martin sur une note pour l'IRIS là-dessus. On montre très bien que il y a un processus, finalement, de sous-traitance de la production de recherche et développement qui s'opère depuis le milieu des années 80, principalement, qui est dû aussi à la structure institutionnelle du capitalisme actuel, capitalisme financiarisé, qui demande aux entreprises du rendement très rapide, très à court terme, alors que l'entreprise, justement, dans le contexte actuel, se valorise à partir de ce qu'on appelle ses actifs intangibles. Donc, c'est sa capacité de récolter des profits futurs qui est fondée notamment sur la recherche et développement. La recherche et développement coûte trop cher aux entreprises parce que les actionnaires veulent du rendement rapide. Ce qu'on fait, c'est qu'on sous-traite la production de savoir aux universités. Hein? Donc, financement public de la recherche, privatisation des profits. Aux États-Unis, c'est clair, c'est dans la loi Badal, hein, qui a permis justement aux universités, aux travaux de recherche qui étaient faits dans les universités, qui étaient financés publiquement, aux chercheurs de commercialiser leur recherche. C'était interdit avant 1980. Puis au Canada, tous les rapports sur la recherche et l'innovation sont fondés justement sur ce qui se fait aux États-Unis, rapports Fortier, sur l'innovation, les politiques d'innovation, etc. Il dit qu'il faut faire ce qu'on fait aux États-Unis, c'est-à-dire transformer l'université en lieu de production de savoir commercialisable. Donc l'université ne reçoit pas une maudite scène de ça parce que souvent, elle laisse ses brevets avant même qu'elle soit vraiment commercialisable et mise en marché. Donc, les entreprises ramassent les brevets, modifient un peu la patente, la revendent, font le profit, puis les universités ramassent à peu près rien. Les statistiques montrent que c'est même pas 1% du financement des universités qui provient de la production de brevets. Ça veut dire qu'on est dans une optique carrément de socialisation des coûts puis de privatisation des profits.
Mais à l'inverse, comme l'Université de Sherbrooke, ils vont chercher une bonne quantité de financement grâce aux brevets, mais toujours dans le même discours.
Oh oui.
Donc, que tu
sois
en
chercher
ou pas, il y a
ce discours de... Oui. L'Université de Sherbrooke, c'est un bel exemple. C'est campus, je ne sais pas quoi, c'est pas eux qui ont...
celui de la santé, et
ouais.
Celui avec
Bombardier. Oui.
Uniquement ça.
Ouais.
L'argent sale. André, je ne voudrais pas présenter tout à l'heure André Montoux et Cam. Maxime, un commentaire et une question. Commentaire, c'est en principe cette urgence d'innover. On la retrouve aussi après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une entente entre le gouvernement, les universités, et tout. C'est dans ce cas, dans le cas du MIT, qui finançait les recherches et qui a permis des petites boîtes à l'époque comme IBM de ressortir vraiment extrêmement avantageuses. Peut-être des gars comme von Neumann qui mangeait à deux ateliers. Il était payé à la fois par Princeton, dans ce cas-ci, et aussi par IBM. Question. On parlait de l'aliénation tout à l'heure, et je pense à cette mise en garde heideggerienne dans le danger croit ce qui nous sauve, et inversement, c'est-à-dire qu'il y a dans le rapport à la technique quelque chose d'essentiel, mais il y a quelque chose là-dedans que en s'en croyant maître, on en devient nous-mêmes subsumés, esclaves. Et je pensais à tous ces compteurs sur Facebook, notamment sur l'amitié,
où on a 200, 300, 400, 500. Et à ce moment-là, ça roule pour tout à fait dans le raisonnement des guerriers, mm-hmm. du pouvoir. Il y a un épuisement du symbolique parce que ça ne veut plus rien dire à ce moment-là. Et peut-être faire prendre avec la question d'Éric, cet épuisement du symbolique-là, de la transcendance qui apparemment s'enlève, mais devient technique. Mm-hmm. Et quand on fait une critique immanente, la technique n'est plus un outil neutre. Mm-hmm. Donc, il faut retourner, je pense, sur la scène des guerriers, qui est technique et porteuse de quelque chose. Eh bien, on est rendu à sagesse, connaissance, savoir, information et données. Mm-hmm. Je dis le plus pragmatique possible, en apparence en transcendance. Mais comme Lacan disait, pour s'en passer, il faut savoir s'en servir. Mm-hmm. Et tu regardes sur Twitter, par exemple, que je surveille depuis quelques mois, 140 caractères. Alors, ça laisse peu de place. Un hyperlien, mais quand même, c'est surtout des chiffres. Les sondages, l'apparence de l'outil qui parlerait de lui-même. Mm-hmm. Ce qu'on appelle l'immanence, moi j'appelle l'individuation, mm-hmm. c'est-à-dire forme et matière contenant contenu historique et ontologique dans le même mm-hmm. procès. Et il me semble qu'effectivement, c'est là la grosse question, comment se désaliéner lorsqu'on est soi-même porteur de cette aliénation-là. Mm-hmm. Moi, j'en arrive à une mini-proposition de rétablir justement la rose d'une idéologie pour pouvoir ramener la technique sur le plan de la symbolique. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Il y a peut-être deux, trois questions. Effectivement, sur la question de la neutralité de la technique, moi, je pense pas que la technologie est neutre.
Ah non!
C'est ça. La technologie, elle existe dans une forme de société historique, donc elle est imprimée d'un ensemble de valeurs, de croyances. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Mais la représentation qu'on se fait dominante de la technique, c'est qu'elle est neutre.
Ah oui,
ça, c'est problématique. Donc là, il y a une critique un peu idéologique, critique à faire. Mais le problème, beaucoup là-dedans, c'est qu'il y a, dans les réseaux sociaux, tout ça, c'est plus profond, c'est-à-dire que c'est social, mais c'est aussi... une crise dans les sciences sociales qui analyse ce type de pratiques-là comme étant des lieux de socialisation merveilleux, etc., souvent. Hein. Donc,
l'oubli du mot numérique, c'est ça, à réseaux sociaux, par
exemple. C'est ça. Puis, donc, on fait fi complètement de la totalité, si on veut, pour regarder des micro-pratiques individuées qui seraient sensiblement porteuses d'un social, alors que le social disparaît puis se dissout finalement. Hein? Dans le réseau, c'est pas une société, c'est des clans, des gangs. Hein? On se regroupe en tant que clan, en gang, c'est finalement une reféodalisation d'une certaine manière. C'est des clans qui se regroupent, donc les gens qui aiment faire du rollerblade, puis les gens qui écoutent, je sais pas quel groupe de rock. C'est ça. Ouais, n'importe quoi. Doit être ce que tu dis, rétablir le rôle de l'idéologie. En fait, c'est tout le problème, puis ça, je suis d'accord avec toi, c'est retrouver une nécessité d'institutionnalisation. Hein? Donc, quelque chose qui transcende l'immanence des rapports sociaux, donc qui se met en haut, puis qui est finalement l'institutionnalisation de la norme qui permet aux gens d'agir finalement. C'est ça. Le problème finalement, c'est que cette transcendance-là s'autonomise puis s'aliène. Hein? Donc c'est tout le temps l'idée de la nécessité finalement du politique, de la participation politique pour empêcher l'autonomisation des sphères de pouvoir. Mais d'un autre côté, dans beaucoup des représentations qui sont faites du monde en réseau, etc., puis c'est ce qu'on retrouve également dans le monde militant, c'est un refus du pouvoir, de la question du pouvoir. Hein? Un refus d'une certaine forme d'aliénation, à quelque part. Hein? Il y a une nécessité, finalement, de représentation, de placer une institution au-dessus de soi pour ne pas être dans le réseau. Il n'y a pas de politique. C'est un truc complètement antipolitique puis apolitique. Puis c'est ce qu'on retrouve finalement dans le monde. C'est ça. C'est le dernier homme de Nietzsche. Où tout est relatif, tout se vaut finalement. Donc effectivement, la question du politique implique une nécessité, si on veut, qu'il y ait un lieu institué du pouvoir, parce qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de politique sans lieu institué du pouvoir. Tu dis rétablir l'idéologie. Peut-être, je sais pas, est-ce qu'on appelle ça l'idéologie? Moi, je parle plus dans ce sens-là de médiation, donc de rapport, d'une représentation qui transcende un peu le rapport directement individuel interindividuel entre les individus qui est nécessaire. Donc l'idée hein, aussi, c'est de voir quelles sont finalement les médiations sociales qui sont finalement un peu fétichisées dans notre société. Puis donc c'est l'idée, c'est pas de critiquer toute forme de médiation, mais de voir lesquelles qui sont ruineuses, puis comment est-ce qu'on peut les remplacer justement par des rapports qui seraient finalement nécessairement politiques. Sociaux réels. Ceci dit, comment désaliéner les gens? Il faut dire qu'il faut avoir une espèce d'espoir dialectique dans la mesure où la société produit ses individus, mais à l'intérieur de l'individu, il y a tout le temps quelque chose qui n'est pas socialisé.
L'individu
de le faire. Oui, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui est capable de faire effondrer finalement le système dans lequel il est encastré. Donc, on n'est pas dans l'homme unidimensionnel. Il reste des fonds de réservoirs populaires, de traditions, etc., qui sont justement sur lesquels il faut aller nourrir, qui peuvent nourrir la possibilité de transcender l'aliénation et la domination, je pense. Mais je ne suis pas sûr que c'est dans Facebook que ça se situe.
Ah, t'es bon,
quoi. Oui, mon nom est Marie-Gilino, et tu viens à la maîtrise. Vous parlez de soi décentré qui participe au capitalisme actuel. Mmh. Est-ce que donc, du coup, on peut dire que l'individu a bien indirectement à s'exploiter lui-même? C'est par exemple, donc, trouver naturel d'étaler sa vie privée dans des sites de rencontre dont vous avez parlé, voir les reality shows où justement le côté marchand et financier ressort encore plus, puisque donc il y a des mots à la clé à gagner et tout comme ça.
Oui, ben effectivement, c'est parce que je pense que c'est ça. Retourner en théorie critique puis analyser la communication, il ne faut pas tomber dans le réductionnisme médiatique puis voir comment, justement, le média est inscrit, c'est une médiation avec la totalité, puis voir comment, justement, la transformation dans le capitalisme, dans le travail, implique des transformations aussi dans les représentations de soi qu'on retrouve dans les médias. L'individu, justement, qui doit être un entrepreneur de lui-même, etc., ben il correspond tout à fait à l'individu qu'on valorise dans les reality shows, hein, qui doit étaler, s'étaler, montrer sa transparence, etc., parce qu'il est finalement... les reality shows, c'est une forme de télévision qui est très néolibérale d'une certaine manière, parce que c'est une lutte de tous contre tous, hein, une espèce de guerre économique. Puis c'est la guerre économique qu'on retrouve dans la société aussi. Hein, c'est du darwinisme social. Puis darwinisme social, ben c'est aussi les théories néolibérales de Hayek. C'est fondé sur du darwinisme social. C'est le plus apte à survivre qui remporte la mise. Puis effectivement, c'est là où il faut voir justement ben ce qui se passe dans les reality shows, ce qui se passe dans les réseaux sociaux aussi. C'est un peu aberrant, hein, tu sais, dans les époques totalitaires, le monde se cachait pour pas montrer leur vie privée, parce qu'il y avait la Stasi qui surveillait. Maintenant, les gens font ça de manière tout à fait délibérée. Donc, mais c'est directement dans la structure, si on veut, ontologique qu'on retrouve dans une société marchande, une société utilitaire. Chez Bentham, c'est ça. Hein? C'est une société de la transparence généralisée où les individus calculent l'ensemble de leurs relations sociales. Pour ça, ils doivent être vus, se savoir vus, puis que les autres, finalement, se voient comme tels, comme des choses, finalement. Effectivement, c'est une forme d'auto-exploitation. J'appelle ça de l'auto-réification. Tu te présentes comme un objet. Hein? Donc, tu n'es plus dans un rapport à l'autre qui voit l'autre comme une fin en elle-même, mais comme un moyen en vue d'en arriver à une fin. Puis c'est finalement le rapport interindividuel que tu retrouves qui permet de rendre possible le capitalisme et la société marchande.
Et ça devient très naturel. Donc.
C'est ça, c'est naturalisé. Donc c'est ça, c'est le propre d'un fétiche que d'apparaître naturel. C'est une seconde nature. Les gens agissent de cette façon-là, alors que souvent, ils présentent ça, selon moi, comme étant la quintessence de la résistance, puis de l'avant-garde et de la révolution, alors que ça s'inscrit directement dans les pratiques du capitalisme, puis de la domination. Donc, ils participent directement à ça.
Si je peux parler de Maxime, il y a aussi le fait que quand tu désymbolises pour la technique, dans le symbolique, il y a sa propre totalité inatteignable, ce qui nous rend tous égaux ou dépossédés, pour dire l'objet. Mais quand tu le mets technique, la réflexion rendue là, c'est que cette totalité-là, tu dois la créer pragmatique, donc porter explicitement le regard partout. Mm-hmm. Et c'est comme si le système lui-même se réifiait. Mm-hmm. Et on le voit, par exemple, dans la télé-réalité, bien sûr, ces environnements fermés. Quand tu perds dans la télé-réalité, tu sors à l'extérieur. Donc, tout est fait pour être à l'intérieur, pour porter le regard partout. Maintenant, c'est rendu même esthétique. Je pense aux émissions de télévision où tu as une prise de vue qui part de l'espace satellitaire, entre guillemets, qui fait un zoom-in sur les personnages. Ça nous renvoie à cette idée-là qu'il faut porter le regard partout et ça crée à la fois un monde global et fermé. Il n'y aurait pas sa propre extériorité, d'où lequel on pourrait le critiquer et encore moins le nommer. Mm-hmm. Et ça banalise, comme je disais, la surveillance. Alors, on se porte au regard pour être et ça, c'est le côté relationniste aussi, le personal branding,
oh oui.
C'est l'incorporalité, l'incorporation, si je peux dire, du capitalisme à son plan individuel.
Oh oui, oh oui. Non, tout à fait. C'est la réalisation, finalement. C'est une forme de capitalisme pur, je crois. C'est ça, sans friction, on pourrait dire. Bill Gates disait ça.
Ah, oui.
Mais donc, effectivement, c'est pur. C'est sa réalisation, c'est finalement le capital a rejoint son concept. En termes égaliens, il a rejoint son concept, donc on est dedans.
Mais est-ce que tu ne remets pas en question le matérialisme historique en fait de Marx par
rapport à ça? Ben, le matérialisme historique, là, c'est pas de Marx, c'est de Engels. Donc c'est pas. Puis la manière dont on lit la théorie de la transition entre les modes de production de manière très téléologique puis évolutionniste, ça se retrouve dans ses écrits plus de jeunesse, mais si on regarde bien ses écrits de maturité, il en vient justement à historiciser l'apparition des catégories. Donc, il explique que moi, je fais pas une histoire du déploiement de la société à travers son début puis sa fin. J'explique finalement le télos du développement du capitalisme. Donc, ce qu'on expliquait en termes de matérialisme historique, finalement, de la directionnalité du capitalisme, de la société, des sociétés précapitalistes, en fait, il faut l'avoir à l'intérieur du capitalisme même, son telos, sa directionnalité, qui est une fuite, finalement, vers un nulle part. Donc, en ce sens-là, chez Marx, il n'y a pas d'idée de fin de l'histoire en tant que telle. Selon lui, ça serait davantage, je pense, l'idée d'un début de l'histoire qui commencerait après le capitalisme. Hein? Donc, donc, ce qui est intéressant de voir, finalement, c'est par rapport à ça, justement, le rôle de la technique et de la science est très important. C'est que chez Marx, quand tu lis le chapitre sur le machinisme, il dit carrément que c'est le mode de production réellement capitaliste, c'est le stade où il a atteint le machinisme, où c'est la machine qui produit des machines. Là, on est réellement dans le capitalisme. Donc, le capitalisme, c'est dans sa forme industrielle qu'il est réel, si on veut. C'est là où la possibilité de le dépasser est possible. Dans les stades antérieurs, ben, on retournerait à quelque chose d'autre, mais qui serait pas finalement ce qu'il a envisagé comme communisme. Mais effectivement, je remets en question la lecture du marxisme traditionnel, hein, qui voit justement le travail comme l'activité essentielle de l'homme, c'est-à-dire comme son ontologie. Ce qui le définit, tout ça. Puis ça fonctionne pas parce que, justement, quand tu lis les textes, il dit carrément, non, le travail, tel que je le conçois, il n'existe que dans cette société-ci. C'est-à-dire le travail capitaliste. Dans les sociétés antérieures, il va utiliser travail concret, mais encore là, c'est pour spécifier la forme qu'il prend dans le capitalisme, parce que dans les sociétés antérieures, c'est pas du travail. C'est une autre activité sociale, puis ça prend différentes formes, ça a différents noms selon les types de sociétés, selon les cultures.
Avez-vous vu, maintenant, je suis assistant de recherche au Brésil. Vous avez évoqué chez Bentham deux perspectives du panoptique, la verticale et l'horizontale, et de la confusion souvent qui est entre les deux. Quelle distinction faites-vous
Ben, c'est parce que souvent, je pense, dans les études en sciences sociales, on nous souvent recourt au concept de panoptisme, de surveillance, etc. Donc, de manière très verticale, hein, c'est-à-dire, hein, on se représente souvent le pouvoir de manière assez personnalisée comme étant des institutions situées en haut qui surveillent les comportements des individus. Souvent, c'est ça qui est reproduit dans les études sur la surveillance. Alors que chez Bentham, le panoptisme est conçu de manière tout à fait diffuse. Hein? C'est-à-dire que c'est les individus qui se regardent les uns les autres. C'est une manière de gouverner la population à travers la société elle-même. Donc, qui ne nécessite pas nécessairement pouvoir politique au-delà de la société, plutôt l'utilise. Hein? C'est une manière de gouverner qui utilise la société pour qu'elle se rende efficiente par elle-même. Donc, le pouvoir est tout à fait dépersonnalisé. Hein? Donc, c'est pas parce que il y a des méga, un État totalitaire qui voudrait surveiller les individus, il n'en a même pas de besoin. Dans le fond, parce qu'il suffit que tu aies des individus qui se surveillent eux-mêmes pour qu'ils agissent en conformité avec les visées qu'on veut faire de ce type de société-là, qui vise l'accumulation illimitée. Donc, le rapport au monde des individus est celui de la quantification des uns des autres. Je veux dire, Facebook, c'est pas un produit de la CIA. Les gens l'utilisent, il y a personne qui est forcé à l'utiliser, hein, mais ça institue un certain rapport au monde qui est tout à fait en phase avec un type de société particulier. Puis souvent, je pense que dans les études sur la surveillance, on n'insiste pas beaucoup sur cette question-là. On essaie souvent de le rapprocher à une personnalisation du pouvoir puis à un lieu assez précis, notamment l'État. Quoi. Ça dépend.
Les dix dernières années qui sont bien placés.
Ils ont placé Foucault un peu dans son point. Oui. Probablement. Ouais. Lyons, c'est quand même pas mal, je pense, son rapport à Foucault. Mais il y avait une tendance finalement beaucoup à essentialiser beaucoup de pouvoir dans les études sur la panoptique. Il le voyait de manière verticale.
Eric, qu'est-ce que tu penses de la notion de servitude volontaire?
Oui, c'est une notion de servitude volontaire. Effectivement, la
boétie. Le
terme. Non.
Oui, on trouve ça. Mais effectivement, c'est de dire hein, que la domination, je pense que la domination qui est spécifique au capitalisme, c'est une domination des individus par leur propre travail, par des médiations sociales auxquelles ils participent directement. Hein? C'est pas tant un rapport de classe qu'un rapport d'exploitation, bien qu'il soit réellement là. Puis ça implique aussi hein, beaucoup de choses, donc un retour historique sur, par exemple, l'URSS, qu'on peut dire c'était pas du tout une société communiste, dans la mesure où elle était fondée sur le travail. Donc on a essayé de détruire la forme, la valeur, mais on a continué à conserver le travail industriel, le travail abstrait, puis cette forme même-là de travail qui doit être transcendée. Donc, c'est une domination par sa propre activité. Puis une domination qui prend une forme d'une temporalité aussi assez précise, particulière, hein? Une temporalité qu'on pourrait dire abstraite qui est dissociée finalement des formes de temps précapitalistes qui étaient directement orientées vers la tâche, qui étaient culturellement déterminées. Donc le temps abstrait, c'est le temps quantifiable. C'est une forme, c'est une catégorie qui est intériorisée. On intériorise l'idée que le temps c'est de l'argent. Puis ça, si vous regardez les travaux de Heap Thompson, qui écrit, je pense, travail, discipline industrielle. Il montre très bien hein, qu'il y a une lutte qui, dans l'histoire, finalement, dans le passage de la transition au capitalisme, où les individus ne voulaient rien savoir, finalement, d'intérioriser cette catégorie-là, puis ça a pris une bande de moralistes pour leur faire accepter l'idée que le temps, c'était de l'argent. Puis, à ce moment-là, les luttes de classe sont inscrits directement à l'intérieur des catégories de l'économie politique plutôt que les remettre en question. Donc, les ouvriers sont devenus des sujets bourgeois en intériorisant une conception particulière du temps qui est celle du temps abstrait, temps moderne, finalement. Donc, nécessairement, hein, la critique du capitalisme doit aussi porter sur la critique de la conception particulière du temps qui consiste aussi en une forme de domination. Donc, nécessairement, c'est ça où la technologie devient complètement contradictoire parce qu'on dit ça libère les individus du temps, mais en même temps, ils sont de plus en plus dominés puis ils ont de moins en moins de temps. Hein? Donc, puis on dit qu'on peut libérer les individus du travail parce qu'il y a une automation, mais on travaille plus que jamais. Hein, alors que dans les années 60-70, on parlait de société des loisirs. Puis cette société des loisirs-là n'est jamais arrivée. Alors que ça pourrait être finalement un projet politique assez intéressant qui pourrait rallier beaucoup de gens, selon moi. Et puis effectivement, qui est inscrit justement dans l'idée hein, de renouer des rapports sociaux qui sont plus humains, alors, s'occuper de sa famille, s'occuper de ses amis, s'occuper de, plutôt que de le médier de manière technologique puis se parler uniquement via Facebook.
Donc, quand tu dis ami, tu ne parles pas ami Facebook.
Ouais.
Non. Sauf, les universitaires sont eux-mêmes très forts hein, dans
l'auto-exposition. Oui.
Dans la servitude volontaire.
Oui.
Dans l'idée que la technologie est en soi porteuse de l'aliénation, est-ce que ça veut dire qu'on la rejette ou ça veut dire...
Non, 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 on n'a pas au sens des ludites hein, qui disaient qu'il fallait casser les machines. Plutôt de voir comment est-ce qu'on peut se la réapproprier pour lui donner des finalités qui seraient autres que celles qu'elles sont actuellement. Hein? D'une certaine manière, la technologie en elle-même rend possible la sortie du capitalisme dans la mesure où elle chasse les gens du travail en les remplaçant par des machines. Mais en même temps, le capitalisme, c'est un rapport social qui est fondé sur le travail, puis le temps de travail, il faut travailler. Donc le travail n'a plus aucune signification autre qu'une reproduction systémique du capitalisme. Donc ça implique aussi, finalement, même le travail, pas uniquement le travail industriel, le travail post-industriel, le travail dans les services, tend à s'imprimer, à être imprimé aussi par cette logique-là de quantification, qui n'a aucun sens, hein, finalement.
C'est d'après toi ou d'après...
Ben, c'est d'après mon interprétation, disons, que je reprends de plusieurs personnes qui ont fait des relectures de Marx à partir de ça. Donc, mais qui n'implique pas l'idée de casser des machines puis de retourner à, finalement, un monde un peu féodal ou tu sais, romantique, un peu la critique romantique aux artisans. Oui, abolir le travail, carrément, l'abolition du travail. Oh oui, le capitalisme, tu ne sors pas du capitalisme tant que tu es dans une société qui est fondée sur le travail parce que c'est une société qui est fondée sur le travail. Donc, c'est nécessairement l'abolition du travail et du salariat qui devient une activité, finalement, qui est purement contingente parce qu'elle n'est fondée sur plus rien. Donc, ça devient ce qui crée le type de rapport politique qu'on a, c'est du chantage entre des catégories de gens qui veulent avoir plus de blé, puis souvent de la part de l'État. Donc, hein, moi, je me suis dit, par exemple, pourquoi est-ce qu'on augmente les frais de scolarité? Parce qu'on dit que, bon, ben, tu es du capital humain, donc nécessairement, tu vas valoir plus tard. Hein? Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence? Si tu sors de l'école avec 150 000 $ par année, tu vas arriver sur le marché du travail, puis tu vas demander encore davantage d'argent, ce qui va faire en sorte qu'on n'a plus moyen de payer le service public parce que les gens coûtent trop cher, etc. Cette logique-là est complètement absurde puis illogique. Donc, c'est fondé sur quoi, la valeur des gens? Est fondée sur plus rien. C'est uniquement du chantage. C'est une simulation, on dirait Baudrillard. Tu fais à croire que tu vaux. Puis ce qui est important, c'est de continuer à faire croire que tu vaux tant. C'est la logique des managers, des PDG de compagnie. Hein. Ils disent, moi, je vaux tant parce qu'ailleurs, je pourrais valoir tant. Puis là, l'autre, il dit, ben ouais, mais là, c'est ça. Puis ils se renvoient les uns les autres. Donc, c'est une logique exponentielle infinie puis qui n'a aucun... base concrète réelle.
Donc, c'est un chiffre impressionnant. Oui. Un chiffre impressionnant, le dirigeant d'entreprise qui gagne le plus, innocent d'ailleurs, c'est le PDG au Canada, Thomson Reuters.
Ouais.
Bon, il gagne le lundi, hein, il ne travaille pas le 1er janvier, je pense qu'il travaille le 2 janvier, à midi, le 2 janvier, il a gagné autant que le Canadien moyen en un an.
Ah oui. Ah oui. Mais c'est fondé sur plus rien.
Mais sans aller jusqu'au dit qui briser des machines quand même en réaction à une éventuelle menace de leur labeur, je dirais, ou pas de travail. Mm. Comment conscientiser des gens qui sont non seulement dans une situation de servitude volontaire, mais s'auto-valorisent dans cette servitude-là, ou comme pour reprendre l'exemple de Facebook, ne sont pas dans une sensation de reproduction d'une aliénation.
Bien, encore là, c'est encore drôle de dire, bon, ils le sentent pas, mais il y a des symptômes que ça fonctionne pas tant que ça, hein, dans la mesure où les gens prennent des pilules comme si c'était des bonbons parce qu'ils font des dépressions.
je pense qu'il y a quelque chose. Il y a un malaise social. Ben oui, mais sauf que le problème, c'est plutôt que d'être politisé, ce malaise social-là, il est individualisé, il est psychologisé. Il est somatisé. Ah oh, ouais, c'est Brand New World. Puis ça, c'est carrément le propre du mode de subjectivation, hein, qui envoie constamment des injonctions contradictoires. On ordonne aux gens de s'activer comme s'ils étaient des individus libres et autonomes, alors que c'est tout le contraire d'une activité libre et autonome que de se le faire ordonner. Hein? Un ordre ne peut pas être une activité autonome. Donc, tu es constamment placé dans une situation de dissonance cognitive, ce qui donne ça. Double contrainte, mais Arenberg parle de la fatigue d'être soi. Tu deviens, puis ça crée des types de pathologies sociales spécifiques dans nos sociétés. C'est des individus. La dépression devient une maladie qui est une maladie sociale. C'est-à-dire que, puis ça se voit, là. C'est-à-dire que les gens sont pas si heureux que ça de leur situation, là. Mais en même temps, bon, ben, c'est récupéré par l'industrie qui vend des pilules. Mais c'est-à-dire, comment est-ce que tu peux politiser ça? Ben, dire que, ouais, ben, peut-être que les pilules que tu prends, c'est peut-être pas parce que toi, t'as une difficulté à t'adapter à la société. C'est la société qui est devenue infernale. Puis qui a aucun sens, qui a aucune signification sociale.
J'avais entendu quelqu'un qui disait en France que la France, je crois, en France qu'il y a le plus grand consommateur d'antidépresseurs.
Oui, oui.
Et que si on interdisait les antidépresseurs, ce serait la révolution.
Exactement. Donc on va interdire les antidépresseurs.
Oui, non, c'était juste pour dire, c'est le fun parce que ça fait la boucle avec Excelonet, là, ton truc.
Ouais.
Au fond, la psychologisation de la réification qui déplace une critique de la totalité vers la psychologie, puis la pathologie sociale. C'est le pendant, en théorie,
de l'antidépresseur. Oh, oui, tout à fait.
André, très rapidement, pour venir sur le débat d'université et qu'est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas si tu fais écho à ce constat-là, la surprédominance de la méthodologie sur les problématiques, comme on a en ce moment, c'est-à-dire de désincarner la recherche d'une praxis.
Mm-hmm.
Et à ce moment-là, et c'est un peu le symbole de technicité qui roule pour elle-même. Je veux dire, tu fais une bonne méto, et puis les résultats, ben, c'est plus ou moins secondaire. La méto a été appliquée, et il n'y a plus d'épistémologie, très peu. C'est grâce à Walmart de la méto. On choisit celui qui
ben, c'est ça, c'est la domination du positivisme en sciences sociales. Mmh. Mais il y a des choses qui rendent encore plus malsaines, c'est que. On peut observer, quand tu es un positiviste pur, au moins tu te réclames de la science, mais de plus en plus, il y a un mélange de positivisme, puis de postmodernisme. Donc, tu fais du constructivisme positiviste, ça se voit, tu sais. Tu sais, toute une construction sociale, voici mon hypothèse, puis ma variable, puis etc. Donc, ça devient complètement, ça fait insensé aussi. Puis, le mélange du positivisme, puis du déconstructivisme, ça donne quoi? C'est Luhmann. Luhmann, sa théorie est fondée beaucoup sur Deleuze et compagnie, etc., hein, pour en faire finalement une théorie systémiste par la suite, la reproduire en théorie systémiste, je trouve aussi assez, qui est rendu important, type de théorie à Calon-Latour, Actor Network Theory, qui analyse uniquement des micro-pratiques qui finalement refuse la dichotomie des hommes avec des machines, qui dit que l'homme, quand il rentre en contact avec une machine, devient machine, c'est tout à fait deleuzien. Donc, il en vient au point de dire que les machines devraient avoir droit de vote au Parlement.
Ouais.
Les machines
même. Théorie Saint-Jacques,
ça ouais, c'est ça. Donc, c'est insensé. Mais tu sais, puis là, tu es dans une théorie qui se veut quand même critique. Là. Hein? C'est un peu aberrant.
Sans vouloir dire qu'on a épuisé le sujet, et qu'on va épuiser les gens de la santé. Merci beaucoup. Et merci à vous.